faut beaucoup d'expérience pour être prudent. Il faut beaucoup d'expérience pour acquérir la vertu. C'est tout à fait autre chose que l'expérience. Et puis j'ai des expériences qui sont des expérimentations. C'est encore autre chose que l'expérience. L'expérimentation, ce n'est pas la même chose. Il y a des expériences que je fais en vue d'une connaissance spéculative. Et cette expérience en vue d'une connaissance spéculative est encore un autre type d'expérience. Vous voyez, donc, j'ai de fait des modalités d'expérience extrêmement différentes. Parmi ces modalités, il y a une expérience que je peux appeler l'expérience artistique. Qu'est-ce que c'est que l'expérience artistique comparativement aux autres expériences? Quand vous voyagez avec un artiste, un grand artiste, vous êtes très frappé de voir que l'artiste ressent des quantités de choses que vous, livré à vous-même, vous ne ressentez pas. Il vous apprend à voir. Il vous apprend à entendre. Il vous apprend à toucher. Si vous êtes avec un sculpteur, je vous ai déjà raconté ce voyage en Grèce, le premier voyage que j'ai fait en Grèce. Je l'ai fait avec un ami qui maintenant est mort, qui était un très bon sculpteur, qui habitait Genève, et qui était vraiment un artiste à sa manière, c'était un artiste artisan. C'était extraordinaire de voir la manière dont il regardait. Moi, il m'a appris beaucoup. Parce que quand on est un artiste, on regarde autrement que les autres. On n'a pas un œil nouveau de cyclope, mais on a une possibilité de regarder avec plus d'attention. Alors tout d'un coup, dans une île, je reçois un coup de coude dans la poitrine. Ça s'est resté, c'est une autre expérience. Mais et il dit, regardez cette déesse. Lui, il l'avait vue, moi, je ne l'avais pas vue. Mais lui avait vu cette déesse. C'était une grecque qui avait des yeux extraordinaires, évidemment, qui avait tout à fait les yeux grecs. Il n'y en a plus beaucoup comme ça. Hein. Parce que les Turcs sont passés. Alors les yeux grecs ont disparu. Mais ça reste dans les îles. Enfin, toujours dans les îles, on reste ces choses. Et c'est vrai que c'était assez beau. C'était très beau à regarder. Oui. Bon, un artiste voit des quantités de choses qu'un autre ne voit pas. Un musicien, il entend. Il découvre des harmonies qu'un autre ne voit pas. L'expérience artistique, qu'est-ce que c'est que l'expérience artistique? Il est bien évident que nous sommes tous des artistes, hein, mais très peu éduqués. Et nos expériences s'usent à cause de l'utilité. Tout le monde sait, c'est une question maintenant très très connue, que le gosse, avant d'aller à l'école, a bien plus d'imagination. C'est pour ça que quand on lui demande de faire des petits dessins avant d'aller à l'école, c'est beaucoup plus imaginatif. L'école use l'imaginaire. C'est pas drôle, hein? Combien d'années d'école sur le dos? Combien d'usures de l'imaginaire? Vous voyez ça? Ce qui explique comment aujourd'hui il y a des ruptures de bandes. Quelqu'un disait, qu'idiot d'aller à l'école, je m'abîme. C'est vrai. Des gens qui ruent dans cette espèce de méthode faite à tout le monde. Bon, tout le monde doit passer par le même cycle. Alors qu'on a tous des tailles différentes. Et on doit passer tous par le même cycle. On doit tous faire cause successivement, alors que quand même, il y a des intelligences et des sensibilités très différentes. Cette méthode imposée à tout le monde use l'imaginaire, use la capacité que nous avons d'attention et d'éveil à la connaissance artistique. D'éveil à la connaissance artistique. L'expérience artistique est une expérience qualitative, à la différence de l'expérience utilitaire. Quand on est obligé, vous savez, faire tous les jours le même trajet pour venir à l'école, On fait ce trajet d'une manière utilitaire, le moins de temps possible, hein, le plus rapidement possible, avec tous les raccourcis possibles. Et on combine pour que ce soit pris exactement. À ce moment-là, vous ne voyez plus rien du tout sur votre passage. Vous êtes un bolide qui passe, et puis c'est tout. Et vous, si jamais il y a un obstacle, hein, gare à l'obstacle, parce que vous descendez le plus vite possible, parce que vous êtes en retard. Vous avez combiné que c'est le plus vite possible. Vous n'avez plus aucune expérience. Vous pouvez, à ce moment-là, non. C'est uniquement, vous êtes tendu vers le but utilitaire. Un monde comme le nôtre, qui est un monde de la rapidité, qui est un monde extraordinairement tendu vers ce qu'on doit faire. C'est un monde qui brise le point de vue de l'expérience artistique. Ça, c'est très vrai. La rapidité du mouvement, la rapidité des empêche ce que représente cette expérience artistique. Dans l'expérience artistique, la sensation est dans un état de repos. Autrement, elle ne peut pas être parfaitement elle-même. L'expérience artistique va permettre, puisque c'est une expérience qualitative, de mettre en pleine lumière les qualités que vous êtes capable de saisir. Vous voyez, quelqu'un qui s'intéresse aux animaux, petits oiseaux, n'est-ce pas ? Eh bien, il détecte tout de suite la diversité des oiseaux et leurs mœurs, et leur manière d'être. Il les voit. Tandis que celui qui ne s'intéresse pas, il ne les voit pas du tout. Non, il ne les voit pas. C'est, vous voyez, tout de suite, un intérêt par rapport à une chose. Alors là, c'est aussi une expérience. Ça fait partie des expériences. Je suis attentif et je suis capable de détecter. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui caractérise l'expérience artistique. L'expérience artistique, c'est justement l'expérience dans laquelle l'intelligence et la volonté veulent me rendre particulièrement réceptif aux qualités sensibles. Je suis réceptif aux qualités sensibles et aux qualités propres sensibles. Qualités propres. Pas au sensible commun. Non, sensible commun, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça intéresse énormément la vitesse, ça, les sensibles communs. Les sensibles communs, c'est exactement ça. Il faut aller le plus vite possible, avec le moins de monde possible. Ça, vous savez, il n'y a qu'à demander les expériences des chauffeurs de taxi dans Paris. C'est extraordinaire leur connaissance qu'ils ont de Paris. C'est tout à fait autre qu'une connaissance artistique de quelqu'un qui vient visiter Paris. Ça ne les intéresse plus du tout, pour les artistiques. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est les heures de pointe et les heures de non-pointe. C'est ça qui est intéressant pour eux. Il y a des moments où on n'avance pas, impossible d'avancer, c'est impossible. Donc, et il y a des heures où on peut avancer à toute vitesse. Des points. Bon, c'est la connaissance utilitaire, l'expérience utilitaire. Mais c'est tout à fait autre chose que celui, au contraire, vous demandez à un artiste la connaissance qu'il a de Paris, mais c'est autre chose. Je me souviens, c'était à Athènes. C'était un professeur de mathématiques, mais qui était pythagoricien, qui était profondément religieux et pythagoricien. Alors, il voulait faire une promenade avec moi pour pouvoir regarder l'Agora et regarder Athènes. Alors, il m'a dit, il faut y aller à telle heure. Nous nous rejoindrons à telle heure, parce que c'est à telle heure qu'on doit voir le coucher de soleil sur l'Acropole. Si on ne voit pas ça, on n'a rien compris. Ça, c'est pas mis dans les guides. Mais ceux qui connaissent, voyez, les pythagoriciens sensibles et qui ont gardé leur sensibilité, la connaissance artistique consiste à essayer de découvrir les qualités propres des réalités qui sont autour de nous. C'est ça le propre de l'expérience artistique. L'expérience artistique n'est pas n'importe quelle expérience. Et l'expérience artistique développe en nous la sensibilité propre des sensibles propres. Et donc met en pleine lumière la couleur, la lumière. Met en pleine lumière le son. Met en pleine lumière le toucher. C'est ça l'expérience artistique. Eh bien, l'expérience artistique nous permet d'être sensible au milieu dans lequel on se trouve. On est sensible au milieu dans lequel on se trouve. Et parce qu'on est sensible, c'est un terme artistique, on sent des quantités de choses que les autres ne sentent pas. Ça, c'est intéressant de voir ces choses-là. Hein. Et c'est important de comprendre que tout le facere s'enracine dans l'expérience artistique. Et qu'est-ce qui tue le plus l'expérience artistique? C'est quand je suis polarisé par l'utilité, l'efficacité, la rapidité. Alors ça tue complètement l'expérience artistique. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je deviens incapable de comprendre même ce que peut être une expérience artistique. Alors qu'il faut cultiver cette expérience artistique pour me permettre de goûter au sens fort les réalités. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire ça, vous voyez, petit matin, regarder pendant un quart d'heure, je comprends très bien, il y aurait de quoi. Regardez, il y a des lumières qui sont d'une beauté extraordinaire. Alors on peut rester là un quart d'heure dans cette beauté. Oui, si on a le temps, oui, je comprends. Mais au moins quelques instants. Au moins quelques instants. Vous voyez qu'il y a une rupture de l'utilitaire pour que la sensation demeure une sensation artistique. Si on a le goût de ce que représente le point de vue de la lumière, le point de vue de la couleur, si on est visionnaire, si vous voulez, si on a le sens de la peinture, si on a le sens de la musique, alors c'est la question du son, la question de l'harmonie, c'est la question du rythme auquel on doit être sensible. La vitesse tue cela. Je sais bien qu'on pourrait dire qu'il y a un rythme de vitesse très rapide, mais vous savez, arriver à une certaine vitesse, je crois que c'est complètement fusillé tout ça. Ça n'existe plus. Je crois que c'est très important d'avoir ce contact avec le milieu dans lequel on est. C'est ça le facere. Ça fait partie de la dimension humaine. On ne peut pas être un homme plaignier s'il n'y a pas la dimension du facere. S'il n'y a que la dimension de l'agir. Quelque part, on mange pour vous. Je ne crois pas. Les hommes du XVIIe siècle, peut-être. Et les hommes de l'art Saint-Sulpice, peut-être. N'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, le facere disparaissait complètement. Et puis, il n'y avait plus que l'agir. Vous voyez, des hommes qui sont trop pieux moralement et qui n'ont aucun sens du facere, ça devient des criminels. Ça devient des gens qui seront capables de commettre des pires injustices, n'ont aucun sens du voisin, de la connaissance de ces... C'est très très important, vous savez. L'homme humain est fait du facere de l'agir. Hein. Et dans la mesure même où on doit tenir compte de ça, on a un capital de vie. Je sais très bien qu'il y a le massacre des saints innocents. Le massacre des saints innocents, c'est massacrer des quantités de choses qui en soi sont ni bonnes ni mauvaises. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on doit les massacrer ou pas? Il faut les massacrer autant que possible au bon moment. Hein. Le massacre des saints innocents, il ne faut pas les massacrer n'importe comment. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout développer en nous. Il y a des options. Il y a des options, c'est impossible autrement. Mais faisons attention. Notre sensibilité artistique, je dis bien notre sensibilité artistique, nous n'avons pas le droit de la massacrer. C'est trop important. C'est contact avec le milieu dans lequel on est et un milieu du côté qualitatif. Si vous massacrez cette expérience artistique, vous tomberez uniquement dans celui qui ne regardera au bout d'un certain temps que l'aspect d'efficacité et d'utilité. Alors on dira, ce monsieur, il vaut tant. Il vaut tant. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il gagne tant. C'est terrible. L'efficacité, vous le mesurez en fonction de son efficacité. Vous ne le mesurez pas pour lui-même. Et tout ça commence par la connaissance, par l'expérience. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup à ce premier moment. Parce qu'on ne le voit pas et on l'enterre. l'expérience artistique. C'est quelque chose qui développe en nous notre capacité de saisir un milieu. Et de vraiment le saisir. Un milieu géographique, qu'on regarde de temps en temps un peu le paysage, sous les différentes lumières. Alors avec les petits oiseaux, si on a la sensibilité des petits oiseaux, alors qu'on regarde ça, qu'on regarde les autres grosses bêtes, ça peut être aussi une qualité particulière, et qu'on regarde aussi alors le milieu dans lequel on est quand même. Si on vit avec d'autres hommes, il y a quand même un peu un contact avec les autres. Et là, vous voyez, il y a une adhésion réelle. Ça, ce serait les compléments de la méthode Vitose, ce qu'il ne dit pas. La méthode Vitose ne va pas jusqu'à l'analyse des expériences, alors que c'est très important. Il y a une analyse des expériences qui est diverse. Ce n'est pas la même chose, l'expérience affective et l'expérience artistique. Dans l'expérience affective, vous voyez avant tout la capacité dont l'autre vous attire. C'est autre chose, l'affectivité. Il y a une sensibilité affective et il y a une sensibilité artistique. Et la sensibilité affective et la sensibilité artistique doivent toutes les deux se compléter et s'équilibrer. Parce que la sensibilité artistique est une sensibilité beaucoup plus du côté de la connaissance. Tandis que l'expérience affective est beaucoup plus immédiatement du côté affectif. Alors, c'est pour ça que l'expérience affective peut très bien nous mettre dans une espèce d'idéalité. Parce que c'est le côté affectif. Tandis que l'expérience artistique, elle a quelque chose de beaucoup plus objectif du côté de la connaissance. C'est l'égalité comme telle. Alors là aussi, on peut aussi tout de suite idéaliser aussi. L'artiste idéalise facilement. Il idéalise facilement parce qu'il voit tout de suite monts et merveilles dans la petite expérience qu'il fait. Immédiatement, il y a l'imaginaire qui est là et la mémoire qui vient dire que c'est quelque chose de merveilleux qu'on n'a encore jamais vu. Alors, il idéalise, c'est très vrai, des deux côtés. Mais je crois que l'expérience affective et l'expérience artistique sont les deux grandes expériences du milieu et des hommes. Alors, je ne reviendrai plus là-dessus, je regarderai la fois prochaine l'inspiration, sauf s'il y a des questions.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nous allons essayer de continuer cette analyse du travail. Je réponds d'abord aux questions posées. Ça fait partie du principe. Alors, lorsque une question de ce genre est posée, à savoir, le travail peut-il me finaliser ? Vous dites que cette question est de l'ordre de la connaissance pratique artistique. C'est évident, le travail comme tel. Dans l'ordre moral, l'analogue du travail, c'est la sève. Je fais des exercices pour essayer d'être obéissant. Je fais des exercices pour essayer d'acquérir l'humilité. Je fais des exercices pour acquérir la tempérance. Je vois des belles pommes devant moi tous les matins et puis non, j'en pense pas aujourd'hui. Puis 10 minutes après, on revient et bien après. C'est la 16. La 16, c'est l'exercice pour l'exercice. Enfin, des exercices pour acquérir, c'est vrai, pour la vertu. Alors, le travail comme tel, c'est de l'ordre du facere. C'est sûr. Le travail demande d'être efficace. Quand vous travaillez et que vous ne voyez aucune efficacité, au bout d'un certain temps, vous dites, mais qu'est-ce que je fiche ? Pourquoi je continue de travailler ? Je ne vois rien, aucun. C'est la difficulté de la 16, hein, parce que vous ne voyez pas la vertu poussée. Mais si vous voyez la vertu poussée, ça serait beaucoup plus facile au noviciat. Bien plus facile, on verrait pousser. C'est comme le gosse qui a mis une petite semence dans la terre, et puis le lendemain matin, il va voir si ça a poussé. Et tous les jours, il regarde si ça pousse. Et dans la mesure où il fait ça tous les jours, il empêche la chose de pousser elle-même. Et sa mère lui dit, elle en laisse tranquille, puis attend. Il faut avoir un peu de confiance dans la graine qui pousse toute seule. Et c'est vrai que le travail demande d'être efficace. Et un travail dont on ne voit pas l'efficacité fatigue. Un travail dont on voit l'efficacité a en lui-même sa propre récompense. La fatigue, ça provient de ça, c'est parce qu'on ne voit pas le résultat. Alors c'est très fatigant. J'ai essayé de faire ça et puis ça m'a encore pire que la veille. C'est encore pire. Je suis complètement dans le brouillard, je ne vois pas. Alors ça, c'est vrai, ça fatigue. Ça explique du reste que le travail en série fatigue. Quand vous voyez le résultat, il y a déjà une détente dans le résultat. Le travail est une activité vitale, humaine, qui implique donc une tension et un repos. Comme toujours, toutes les opérations vitales. Toutes les opérations vitales impliquent une tension et un repos. C'est le propre du vivant, c'est qu'il est capable de se reposer. Et le propre du vivant, c'est aussi qu'il est capable de se tendre, de s'orienter vers. Et en même temps, il peut se reposer. Il y a le repos. Et bien, dans le travail, alors c'est très très net, ça c'est très très fort marqué. Alors, il faut bien comprendre que le travail, c'est de l'ordre du facere. Dois-je vraiment prendre l'ordre génétique d'une lecture pour sentir l'objectif ? Alors, je crois que c'est autre chose, ça. C'est une autre question. Alors, la première question, c'est celle-là. Eh bien, le travail ne peut pas me finaliser. Comme travail. C'est comme la 16. La 16 ne me finalise pas. Le jour où la 16 vous finalise, ça devient dangereux. Le jour où le travail vous finalise, ça devient dangereux. Parce qu'alors, vous voyez, hein, vous travaillez le plus que vous pouvez. Vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez. Il n'y a pas de limite jusqu'au moment où ça craque. Exactement comme la 16. Celui qui veut maigrir, hein, parce que la 16, ça fait maigrir. Celui qui veut maigrir le plus qu'il peut, hein, alors au bout d'un certain temps, ça devient dangereux. Puis il n'y a plus qu'un squelette. Alors à ce moment-là, il crève. Ça peut être autrement. La finalité, vous voyez, la finalité de la 16, c'est pas une finalité, ça fait la mort. Et c'est vrai que le travail comme tel n'a pas de finalité. C'est un moyen. C'est l'œuvre qui finalise le travail. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre qui finalise le travail et qui donne donc. C'est pas le travail qui, comme tel, finalise. C'est l'œuvre qui finalise le travail. Et l'œuvre est au-delà du travail. C'est quelque chose qui dépasse le travail, qui va plus loin. Alors l'œuvre, elle est où? Quelque chose de l'ordre de l'utile. L'outil. Fabriquer des outils, est-ce que ça finalise l'homme? Non, puisque user des outils, c'est encore du travail. Donc ça ne peut pas finaliser l'homme. L'outil ne finalise pas. Est-ce qu'une statue peut finaliser? L'œuvre d'art est anti-destin, Malraux. Quand Malraux dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? L'œuvre d'art est anti-destin. Ça veut dire que l'œuvre d'art glorifie l'artiste. Et c'est vrai. Si j'ai fait une œuvre d'art, elle restera même après ma mort. Même, elle me glorifie. Elle est anti-destin. Le destin me met dans l'état de corruptibilité et un jour je mourrai. Grâce à mon œuvre que j'ai faite, je peux entrer dans quelque chose qui, justement, est au-delà du temps. Le propre, si vous voulez, le propre, justement, de l'œuvre artistique, pas de l'outil. Quoique l'outil peut devenir, au bout d'un certain temps, une œuvre de musée et une œuvre artistique qui elle aussi me glorifie, d'une certaine manière. Le premier qui a inventé, n'est-ce pas, la locomotive, ben c'est digne du musée aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose qui le glorifie. L'invention d'un instrument peut glorifier, ça peut donc être anti-destin. Mais ça ne peut pas finaliser au sens fort. Pourquoi? Parce que la gloire ne finalise pas. La gloire ne finalise pas l'homme. Et pourquoi la gloire ne finalise pas l'homme? Parce que la gloire, elle vient des autres. Or, elle dépend des autres. Et si elle dépend des autres, elle ne me finalise pas, en ce sens qu'elle ne m'apporte pas ce qui peut être pour moi, ce qui est l'achèvement ultime et dernier. C'est ça la finalité. La finalité demande d'être personnelle. Une finalité qui dépend des autres n'est plus une finalité. Et la gloire, elle dépend des autres. Ce sont les autres qui m'envoient des coups d'encensoir. Évidemment, quand les autres ne l'envoient pas, je peux m'en envoyer à moi-même, n'est-ce pas? Ça peut arriver, ça. Alors, m'envoyer des coups d'encensoir, c'est pas une façon de me finaliser, et pas une façon, c'est pas la gloire du reste, c'est une espèce d'égocentrisme à ce moment-là, tout à fait particulier. Donc, voyez comment le travail ne finalise pas. C'est de l'ordre du moyen, le travail. Mais d'un moyen très noble, hein, et d'un moyen très important. Il faut pas dire, ah, c'est de l'ordre du moyen, moi, je ne veux que la finalité. Non, nous avons besoin, ça fait partie du conditionnement humain. L'homme est conditionné, l'homme doit se servir de certains moyens. Exactement comme l'ascèse. Il y a une certaine part d'ascèse dans notre vie, au point de vue moral. Pas trop, parce que autrement ça craque. Et là, ça ne va plus non plus. Mais il faut un certain moyen, un équilibre. Comme toujours, les moyens, c'est toujours quelque chose qui demande d'être équilibré. C'est la prudence qui ordonne ça. Dois-je vraiment prendre l'ordre génétique d'une lecture pour sentir l'objectif véritable de l'interrogation? Ça donne à penser. C'est vrai, c'est possible. C'est comme votre ça, bien voir. Dois-je vraiment prendre... C'est pas du tout, hein, vous avez raison d'écrire vos objections, mais de temps en temps, je peux très bien ne pas voir exactement. Dois-je vraiment prendre l'ordre génétique d'une lecture pour sentir l'objectif véritable de l'interrogation? L'ordre de perfection ne doit-il pas être ma mesure constante dans n'importe quelle réflexion philosophique? Donc ça, c'est une question beaucoup plus générale qui rapporte les deux. Alors, si vous voulez bien, je ne vais pas tellement entrer là-dedans. Je veux dire, on va répondre rapidement si vous voulez, l'ordre génétique m'aide à découvrir la connaissance d'une chose. Mais il est bien évident que seul l'ordre de perfection me met devant une réflexion philosophique. Pourquoi? La réflexion philosophique commence avec la découverte des principes et des causes. Or, l'ordre génétique ne me met jamais devant la découverte d'un principe et d'une cause. L'ordre génétique me fait découvrir les dispositions. L'ordre génétique me fait découvrir le conditionnement. L'ordre génétique me fait découvrir le comment. Seul l'ordre de perfection me fait découvrir les principes et les causes. Donc, à ce point de vue-là, je peux dire que l'ordre de perfection seul est vraiment philosophique. C'est très vrai. Mais comme le philosophe s'intéresse à l'homme tout entier, et que dans l'homme tout entier, il y a un aspect du conditionnement, je suis obligé de regarder l'ordre génétique à cause de mon propre conditionnement. Je suis moi-même un être qui devient. Et donc, si je suis moi-même un être qui devient, mon ordre de perfection se réalise à travers un ordre génétique. Oui. Ceci, c'est vrai de toutes les réalités humaines. Bon, je laisse. Et puis là, nous allons continuer à voir ce que nous avions vu la dernière fois. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, nous avons regardé tout ce qui était impliqué dans le point de vue du travail. En disant que le travail est, est l'expérience la plus consciente de mes diverses activités. C'est dans le travail que je peux avoir une conscience extrêmement nette de mon activité. Pourquoi ? Parce que le travail, nous l'avions vu, s'enracine par l'inspiration dans l'expérience sensible, l'expérience artistique. Ça s'enracine donc dans l'inspiration. L'inspiration s'inspire dans l'intelligence liée à l'imaginaire. Le point de vue du choix créateur, que nous avions vu, c'est l'inspiration qui se noue. Tout ça est de l'ordre intérieur. Il faut exécuter. Le travail est de l'ordre de l'exécution. Et pour le travail, je me sers d'outils, je me sers de méthodes. Le travail regarde telle matière, ou plus exactement, il coopère avec telle matière, en vue du l'œuvre. En gros. Alors, je vous avais dit, il y a un milieu de travail qui n'est pas du tout indifférent. Et il y a des coopérateurs possibles, ce qui n'est pas non plus indifférent. Quand on a un travail pressé, on peut pouvoir demander à quelqu'un de nous aider. Et là, on coopère. Il y a une coopération dans le travail. C'est très propre au travail, parce que vous ne pouvez pas dire « Je ne suis pas vertueux, alors tu peux coopérer avec moi pour être vertueux pour moi. » Je ne peux pas dire ça. Je peux demander à un ami de coopérer pour mon travail et l'exécution, mais je ne peux pas demander à un ami « Eh bien, que veux-tu, moi j'ai beaucoup de peine de me lever le matin, eh bien tu te leveras pour moi le matin. » C'est pas une coopération dans l'ordre amical. C'est très curieux ça. Je ne peux pas coopérer dans l'ordre de moral. La coopération, elle se fait réaliser dans l'ordre de l'efficience. C'est dans l'ordre de l'efficience. Il faut saisir ces choses-là, parce qu'on fait des confusions. Mais ce qui montre bien que le point de vue de la communauté comme telle, du point de vue politique, va impliquer l'aspect du travail. Une communauté dans laquelle il y aurait des gens qui vivraient d'un point de vue purement moral, en seraient les uns à côté des autres. Grâce au travail intellectuel, il peut y avoir des coopérations. C'est très curieux, c'est très vrai, vous savez. Un noviciat purement moral fait qu'on est les uns à côté des autres, très vertueux à se saluer le matin et se sourire, mais au fond, je ne peux pas être vertueux pour toi, tandis que je peux t'aider dans ton travail. Il y a une véritable coopération. Et cette coopération aide à faire que les êtres se comprennent et à fonder une communauté. Ça me semble très fort, c'est la chose qu'il faut réfléchir, parce que il est bien évident que, au point de vue chrétien, les communautés religieuses se sont surtout développées du côté moral. C'est bien évident. Avec la liturgie en plus. Vous voyez, la liturgie en plus. Mais la liturgie, c'est à des tas de choses dans la liturgie. Il y a le point de vue esthétique, il y a le point de vue moral et religieux, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'assez particulier. Il y a une coopération au point de vue religieux. Mais aussi, on dit, n'est-ce pas, que le point de vue liturgique, c'est le lieu à la fois de la coopération et des plus grandes rivalités. Il ne faut jamais parler, n'est-ce pas ? Il y a des sujets sur lesquels il ne vaut mieux pas parler. Le point de vue politique et le point de vue religieux, le point de vue liturgique. Parce qu'immédiatement, les gens voient rouge. Ils ont des... C'est très difficile la coopération au point de vue. Très difficile. La coopération est beaucoup plus facile dans un milieu d'efficacité du travail comme tel, le travail comme tel. Alors, c'est bien évident que les communautés religieuses se sont moralisées depuis le XVIIe siècle. Se sont moralisées. Et par le fait même, ça a fait des juxtapositions. C'est un fait très curieux de voir ça. C'est un fait. Il n'y a pas une vraie communauté. Pour qu'il y ait une vraie communauté, il faut un malaxe. Il faut que les êtres puissent coopérer dans l'ordre de l'efficacité. S'il n'y a pas une œuvre commune, il n'y aura pas de communauté. Parce que le point de vue moral comme tel, alors il aboutit à l'amitié. C'est très vrai, l'amitié va être l'autre pôle de la communauté. Et l'amitié peut très bien exister. Mais quand on a des principes très absolus, vous savez, de dire non, non, surtout pas d'amitié, alors à ce moment-là, vous avez des communautés qui sont uniquement des juxtapositions. Chacun est dans sa cellule, la cloche sonne, tout le monde descend, on ne dit pas un mot, on ne se regarde pas, il faut observer la modestie des regards. Non, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui a la peine à marcher, ça n'a pas d'importance, la cloche sonne, il est temps d'être là. C'est comme ça, ce moine qui se demandait s'il devait, un moine, sa cabane brûlait, se demandait s'il ne fallait pas, parce que c'était l'heure où restait l'office, et qu'il fallait qu'il reste l'office. La cabane peut brûler, ça va en abondance. Vous voyez, c'est le cloisonnement qui fait qu'il n'y a pas de coopération. Tandis que dès qu'il y a coopération, c'est très important. Je vous dis ça, c'est pour que vous soyez sensibilisés sur ce fait du facere. Et que vous compreniez que le travail intellectuel permet une coopération. Il y a des petites équipes de travail. On doit essayer de trouver des petites équipes de travail. Alors évidemment, on ne pédale pas tous du même pas, n'est-ce pas ? C'est sûr. Et puis, c'est plus facile de travailler avec les uns, c'est plus difficile de travailler avec les autres. C'est très vrai. Alors il faut justement trouver le joint par où le travail sera plus efficace. Il ne faut jamais l'oublier dans notre travail. Ne fourrez pas trop dans le travail votre point de vue moral. Ah, il faut que je travaille avec tout le monde. Résultat, rien du tout. N'est-ce pas ? Non, il faut travailler en comprenant qu'il doit y avoir une coopération efficace, pour que le travail puisse vraiment impliquer des coopérations. Après, on n'exclut pas. Il ne faut jamais exclure. Mais on sait qu'avec certains, le travail sera plus efficace. Avec d'autres, il sera moins efficace. Eh bien, quand il s'agit de la coopération, il faut comprendre que l'efficacité joue un rôle important. En vue d'une œuvre, réaliser une œuvre. Évidemment, le travail intellectuel, la coopération est peut-être plus délicate que dans un travail manuel, où la coopération peut être plus visible, mais la coopération intellectuelle va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, ça fait des liens beaucoup plus forts, parce que c'est l'esprit qui est lié avec l'autre, et on est ensemble dans la recherche de la vérité. Et quand on est ensemble dans la recherche de la vérité, il y a quand même quelque chose qui se noue beaucoup plus profondément. Alors, ceci c'est pour vous rappeler la méthode d'outil, le milieu, la coopération. Donc, le rapport avec un autre. Alors, nous allons maintenant, ayant vu, je vais simplement noter, vous avez le plan, je l'ai refait parce que le tableau a servi à autre chose entre deux. Alors maintenant, je vais noter tous les moments particuliers de cette analyse du travail. Premier moment, l'enracinement du travail dans le milieu géographique et humain. C'est vrai, il y a un milieu géographique et humain. Par l'expérience artistique. Deuxièmement, l'inspiration. Ça ne joue pas toujours, parce que de temps en temps, vous êtes en manœuvre. On vous demande de faire un petit travail intellectuel. On vous dit, il est bon, pendant l'année, de faire un ou deux travaux intellectuels. On se fait la main. Puis vous n'avez aucune inspiration. Alors vous la demandez au voisin. Inspire-moi un peu, je vois rien du tout là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, tant que vous n'avez pas une petite inspiration, vous n'êtes pas autonome.
L'inspiration nous donne une autonomie dans notre travail. Et le degré d'inspiration que nous avons nous donne l'autonomie. Autrement, on est nécessairement dépendant de celui qui va nous éclairer. Alors ça, c'est important, parce que c'est évident que celui qui travaille en série, il n'y a pas beaucoup d'inspiration. Quand on vous demande de balayer, de faire la vaisselle, hein, cherchez pas trop l'inspiration. Ah, je ne ferai la vaisselle que si je suis inspiré pour trouver une nouvelle méthode. Ouais, c'est ça. Alors vous chercherez longtemps. Hein. Non, vous êtes dans l'ordre de l'exécution du travail, c'est bien évident. Il y en a un qui a quand même pensé qu'il était mieux un jour, il y a quelqu'un qui a pensé qu'il fallait faire la vaisselle. On pourrait très bien dire, on va tout mettre le soir en routine, on commencera tous les jours, non? Il y a eu quelqu'un qui a pensé de faire la vaisselle. La vaisselle, on peut la faire individuellement. On peut la faire individuellement. Les reins, on fait la vaisselle individuellement. On peut la faire collectivement. Deux spiritualités différentes.